Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Accorder une bonne heure, mais on va même pas accorder une bonne heure. Alors, ce match ne mérite même pas une bonne heure, puisqu'on a que des points positifs côté espagnol et des points négatifs côté argentin à signaler. Première impression, Jason, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là?
Bah, zéro tir, franchement, c'est honteux. Je pense que pour faire ça, il fallait laisser leur place aux Anglais. Et pour les spectateurs argentins qui ont acheté des places hyper chères pour voir ce spectacle-là, franchement, je trouve que c'est honteux. Et Scaloni, je n'ai pas du tout compris ce qu'il a voulu faire aujourd'hui. Peut-être que ses joueurs étaient cramés, mais il y a un minimum à faire quand même.
Il voulait aller au tir au but, c'était vu. Hein,
mais dès le début du match, des changements qui ont été faits assez tôt. Et il a privilégié, oui, de cadenassé très tôt dans le match. Et franchement, c'est une honte. Je pense pas que ça a déjà été fait en Coupe du Monde. Au total, en 120 minutes, de faire deux tirs et même pas un cadré.
C'est incroyable. En 126 minutes, en sachant qu'il y a eu des prolongations encore dans la première, plus 3, plus en fin de match, on t'en donne 4. Voilà, il y a eu énormément de... On peut compter 130 minutes en tout, hein, facilement. Théo, qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre?
Ah, c'était assez haché, hein, déjà, dans un premier temps. Et ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une finale... Bon, de Coupe du Monde, il y en a moins, hein, évidemment. Mais de ce niveau-là, l'Espagne a été assez retentissante. Mais surtout, l'Argentine n'a absolument rien proposé. Et je pense que ouais, on aurait pu jouer indéfiniment ce match. Si l'Espagne ne marque pas, l'Argentine n'aurait simplement rien fait, quoi. Elle aurait continué son jeu presque de boucher, hein, on peut le dire. Hein. Enfin, il y a eu énormément de fautes. Ils ont vraiment, surtout moi, rien proposé. J'étais quand même assez surpris. Parce qu'on ne pourra pas dire que toute leur compétition s'était basée sur ce style de jeu, même s'ils ont été, voilà, ils ont trouvé souvent la solution dans les fins de match, ils ont quand même proposé souvent du jeu et proposé aussi des belles choses. Donc ouais, j'ai été très très surpris et ils ont été aussi peinés assez rapidement par la blessure de Martinez, hein, le défenseur qui a forcé un premier changement. Et ensuite, je suis totalement d'accord avec toi, tous les changements à vocation défensive, bon bah on a bien vite vu que voilà, le plan de Scaloni c'était de verrouiller et d'essayer de tenir jusqu'à la fin du match, donc... assez déçu, hein, et donc assez content pour le football aussi quand même, parce que bon, ils ont largement mieux joué, hein, l'Espagne.
Merci André, c'est bien André, hein.
Andrea,
dis-moi, comment est-ce que tu es pas déçu un peu de la performance de Lionel Messi qu'on attendait tant, hein, Lionel Messi qu'on attendait un peu dans cette finale là où on se dit il va être décisif, il peut sur un éclair de génie changer quelque chose, mais cet éclair de génie n'est jamais arrivé.
Bah, on peut dire que sur ce match il a été transparent. C'est vrai que par rapport à l'Angleterre, l'Espagne a continué à jouer son jeu, c'est-à-dire beaucoup de technique, beaucoup de domination dans le jeu et dans le ballon. Et on a senti que même physiquement, Lionel Messi était en difficulté. C'était plus compliqué de trouver la seconde inspiration. Après, ça ne remet pas en cause le reste de son bon tournoi, mais je pense que l'Espagne a été supérieure et qu'un joueur seul ne pouvait pas faire la différence, tout simplement.
Merci.
On l'a vu, Messi, dès que l'Argentine a été menée, bizarrement, l'Argentine a cherché à jouer et donc trouvé beaucoup plus Messi. Et là, il a trouvé quand même quelques centres et quelques situations potentiellement intéressantes pour son équipe. Là où, pendant l'entièreté de la prolongation jusqu'à la 120e, jusqu'au but, bah, il n'a pas eu le ballon. Enfin, ils ont couru après la balle.
C'est tout simplement une équipe à réaction.
C'est ça, en fait. Vous pouvez rien faire, donc un peu compliqué.
Et ouais, tout le long du tournoi, ça a été une équipe à réaction à partir de la phase éliminatoire.
Oui, Stéphane, qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors, moi, de cette finale, très franchement, c'était une finale extrêmement pauvre sur le plan technique. Je pense que tout le monde ici sur le plateau a quasiment tout dit, a fait le tour de la question concernant le match argentin. Moi, j'aimerais revenir sur le match des Espagnols, qui a été beaucoup plus complet. Il y a beaucoup de belles choses à analyser. Moi, j'ai par exemple beaucoup aimé l'activité physique des latéraux, notamment Pedro Porro et Marc Cucurella, qui ont été au four et au moulin, littéralement, pendant 126 minutes. Ils ne sont pas tombés de manière globale. L'équipe d'Espagne n'est pas tombée dans le jeu des Argentins, à savoir prendre des coups, rentrer dedans, sortir du match et potentiellement prendre des cartons jaunes un peu bêtes. Ils sont restés concentrés tout du long malgré pas mal de coups qu'ils ont reçus. Et c'est quand même la belle histoire de voir Ferran Torres une fois de plus, la profondeur du banc espagnol qui leur donne la victoire. Durant cette compétition, on a beaucoup parlé de Mikel Merino, mais là, le fait de voir Ferran Torres en sortie de banc qui offre la Coupe du Monde et cette deuxième étoile à la Roja, franchement, je pense qu'il faut vraiment s'axer sur la belle histoire espagnole et qui se conclut d'une fort belle manière avec un groupe, une équipe, un collectif extrêmement soudé et qui peut aller encore plus loin dans les prochaines années.
Merci, hein. Nico Williams, coaching payant, Ferran Torres, pour Ferran Torres, hein, coaching payant, contrairement à Scaloni, Jason, le contrat a été rempli côté espagnol.
Ah, le contrat il a été rempli. De toute façon, ils étaient favoris de cette rencontre, mais on pensait pas que ça allait prendre cette tournure. Tout le monde pensait que ça allait être un match haché. Mais de là à ce que ça soit une attaque défense totale, je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient vu ça. On l'a tous découvert en voyant le match. Mais pour Scaloni, c'est une grosse déception. Donc on attendra de voir les comptes qu'il va nous rendre en interview. Mais quel a été son plan de jeu? Est-ce qu'il a été pris de court à cause des blessures ou de fatigue des joueurs? Parce que sachant que les Argentins ont beaucoup tiré sur chaque tour, ils ont toujours été en prolongation, à vouloir revenir au score à chaque fois, ça demande certains efforts. Donc est-ce qu'il ne le paye pas en finale? Ça, on attendra les réponses du sélectionneur.
Après un tel match, après un tel désastre côté argentin, Philippe, est-ce que pour toi on devrait avoir du changement, que ça soit dans l'équipe nationale en termes de coaching ou quoi, même si on sait que Scaloni, ce qu'il a fait, c'est merveilleux jusque-là, mais on a senti qu'il est arrivé à ses limites avec cette Coupe du Monde?
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est dans la culture des Argentins de toujours un petit peu truquer, essayer de faire déjouer les adversaires. Bon, aujourd'hui, je suis content parce que c'est le foot qui a gagné quand même. Hein. C'est l'Espagne qui est montée en puissance. Et sur cette finale, c'est le foot qui a gagné. Je pense qu'il va être obligé de changer un peu. De toute façon, il y a des joueurs qui vont probablement prendre leur retraite internationale. Hein. Mais après, bon, bah, on n'empêchera pas quand même l'Argentine de jouer comme elle joue avec sa philosophie de jeu. Mais il y aura fatalement quelques évolutions. C'est normal. Mais heureusement, le foot a gagné. Et puis, bah, les Espagnols sont à nouveau champions d'Europe et champions du monde. Ils refont le doublé. Et puis, mince consolation pour nous. À chaque fois qu'on est battu, par le futur champion. C'était le cas en 2014, c'était le cas en 2024 à l'Euro. Ça a même été le cas contre les Grecs en 2004. Chaque fois, on est battu pour le futur vainqueur. C'est une petite consolation.
Voilà. Et j'aurais encore une petite question. Ouais. Est-ce qu'on peut donner le ballon d'or à un Argentin, d'ailleurs Lionel Messi, hein, qu'on dit?
Est-ce que pour toi, si l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde, oui, Messi avait des chances, même en jouant en MLS, d'avoir le ballon d'or. Là, ça va être très, très, très compliqué pour l'obtention du ballon d'or. Hein. Je ne sais pas qui est-ce qui va le gagner, mais même Yamal, il n'a pas fait une saison énorme, il n'a pas fait une Coupe du Monde énorme. Donc, ça va être très, 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 très compliqué pour l'attribution du ballon d'or. Je crois que ça va être aussi compliqué qu'en 2024. Mais non, l'Argentine, il n'y aura pas d'Argentin ballon d'or après cette finale de Coupe du Monde.
Merci Philippe pour cette précision. Jason, on va bientôt clôturer le chapitre, hein, de l'Espagne-Argentine, hein, pour revenir bien évidemment sur la France, hein, qui ont joué face à l'Angleterre hier. Est-ce que tu auras un petit dernier mot à donner côté espagnol? Qui serait ton homme favori côté espagnol pour toi, celui qui est sorti du lot?
Franchement, un Espagnol qui est sorti du lot pour le Ballon d'Or?
Oui, pourquoi pas, ou le meilleur joueur du tournoi?
Pour moi, meilleur joueur du tournoi, je dirais Rodri. Rodri a fait un très bon tournoi, même si sur la finale, il n'est pas forcément mis en avant, mais il a géré le milieu de terrain. Son équipe n'a pas beaucoup concédé d'occasions. Donc, moi, je mettrais Rodri. Et je tiens à souligner aussi que je suis très fier que ce soit Ferran Torres qui ait pu marquer, parce que c'est un joueur qui a vécu d'années compliquées aussi dans sa vie de footballeur. Il a eu beaucoup de déprimes et je pense que ce but-là va lui remettre du baume au cœur, et en espérant qu'il pourra enchaîner sur une bonne saison sur celle à venir avec le FC Barcelone.
Merci Jason. Stéphane ?
Pareil, moi je mettrais Rodri. Je dirais même que le Ballon d'Or peut se jouer entre Rodri et un des deux Parisiens qui ont remporté la Ligue des Champions, à savoir Kvaratskhelia et Dembélé.
Tu penses pas que Kvaratskhelia s'est râpé pour lui quand même, puisqu'il n'a pas joué de Coupe du Monde ?
On se cache derrière cette stat, mais en attendant, il a quand même récupéré le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions cette saison.
Oui, mais donc, on sait bien que ça ne suffit pas pour quand il y a une année Ballon d'Or. On a bien su que ça ne suffisait pas. La preuve Lionel Messi est passé favori pour la plupart des bookmakers. Il est passé favori pour le Ballon d'Or avant même la finale. Et Kvaratskhelia n'est même pas affiché dans le top 10.
Oui, mais ça, après, le problème, c'est qu'on est dans la culture de l'instant. Et encore plus quand on voit Lionel Messi qui joue une Coupe du Monde, on veut que Lionel Messi remporte ce titre parce que il est considéré par énormément de monde comme étant le meilleur joueur de tous les temps. Là, après, si on se focalise sur le factuel et dans cette Coupe du Monde, effectivement, Rodri fait une très belle Coupe du Monde. Il finit bien parce qu'il avait commencé, c'était très difficile pour lui.
Après, si
en
on
phase
prend
de poule,
en compte avec. Parce qu'après, on est obligé de se souvenir du club. Rodri, cette saison, c'est bof quand même avec City.
Oui, bien sûr.
Il revient le truc, City ne gagne. City, il gagne absolument rien. Il gagne
Il gagne
deux trophées.
Trois
trophées, oui.
La Super Coupe.
Il gagne
une Super Coupe, je pense, d'Angleterre.
Il gagne la FA Cup, la Carabao Cup et.
La FA Cup,
et League Cup, je crois.
Non. Ouais, il me semble, non.
Un truc comme ça.
Oui.
Il gagne trois trophées.
Alors oui, c'est trois trophées domestiques, voilà. Et faut pas oublier quand même qu'il revient d'une très grave blessure.
Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas joué une saison complète. Donc si on dit qu'on prend pas compte que du tournoi et qu'on prend compte, puisque tu m'as cité des personnes comme Kvaratskhelia qui n'ont absolument pas participé à la Coupe du Monde. Donc tout si on reparle de ce débat-là, je sais pas, mais on peut peut-être introduire aussi Kylian Mbappé.
Par exemple, oui. Par exemple, Kylian Mbappé.
Qui a terminé meilleur buteur en Ligue des Champions.
Meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Coupe du Monde. Oui, ça là-dessus, en termes de stats, il n'y a pas photo. Mais au bout, quel trophée est-ce qu'il a remporté?
Il y a Mbappé, on n'en parle pas trop, mais il termine meilleur buteur de cette Coupe du Monde.
Ouais.
Et c'est aussi le meilleur buteur de la Coupe du Monde de l'histoire.
Ouais,
donc...
Ouais.
À seulement 27 ans, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va encore en mettre au moins 10. Donc qui va terminer loin devant tout le monde, en Coupe du Monde en tout cas. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi...
Certes, mais bon, en fait, le débat du Ballon d'Or, c'est toujours un débat.
Mauvais,
voilà, c'est un débat où on se recentre toujours sur l'individuel, alors que c'est le collectif qui prime. Et on l'a vu notamment dans le foot continental cette saison, avec le PSG qui conserve son titre en Ligue des Champions, en ayant un bloc collectif où il n'y a pas vraiment de joueurs qui surnagent les autres par rapport à d'autres équipes. Mais pour revenir à cette Coupe du Monde, clairement, Rodri, pour moi, c'est le joueur qui a fait le plus sensation. Il est monté en puissance au fur et à mesure des matchs. Jusqu'à emmener et embarquer le reste du milieu avec lui, mais sur cette Coupe du Monde de manière globale. Après, sur la finale, comme je l'ai dit tout à l'heure, honnêtement, les joueurs qui m'ont le plus choqué dans le bon sens du terme, c'est vraiment les deux latéraux, à savoir Pedro Porro et Marco Kouria, qui ont été au four et au moulin sur le plan physique pendant 126 minutes.
Ah, franchement, j'ai hâte de voir Marco Kouria évoluer dans son nouveau club, hein, le Real Madrid, bien évidemment, dans sa ville, dans sa capitale natale. Comment ?
Avec Ibrahim Konaté.
Et Stéphane, il voulait dire quelque chose, oui.
On va voir. Je sais pas si tu as autant hâte de voir Ibrahim Konaté. C'était une blague.
Oui, après Ibrahim Konaté.
Non, c'était une blague. C'est un très bon joueur.
Oui, je pense qu'il va se reprendre. Et après, il y a de la concurrence. Hein. Là, tu joues avec.
Non, bien sûr, je rigolais. Mais ce que je veux dire, j'en profite juste pour le débat du Ballon d'Or.
Ouais.
Moi, je suis incapable de dire.
T'as pas de prédiction.
Ça me paraît super compliqué. Et puis, tu peux trouver 10 personnes qui vont dire différentes. Je veux dire, là, moi, je pense, je dirais que, effectivement, quelqu'un, c'était Kylian Mbappé, il revient dans la course. Je pense qu'Ousmane Dembélé revient dans la course aussi. Rodri, je pense que c'est quasiment impossible parce que c'est, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Il va peut-être être sacré, je sais pas.
Mais est-ce que c'est façon impossible qu'il l'ait comme Lionel Messi?
C'est-à-dire?
En fait, je pense que
est-ce que c'est de la même façon que c'est impossible? Ouais, en sachant que Rodri gagne la Coupe du Monde quand même. Hein.
Non, mais c'est trop néfaste. Le ballon d'or, c'est trop néfaste.
Bien sûr.
Il y a 1000 arguments pour un et 1000 arguments contre l'autre.
Oui, non, c'est pas.
On peut pas dire que Mbappé soit le meilleur joueur de la saison en termes footballistiques cette saison, quoi. Ok, pléthore de buts. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur? C'est ça le problème. Si on prend que les buts ou les.
Si on parle de ballon d'or.
Après là, où en principe, on pourrait pas le donner à Messi, c'est que Messi ne termine pas meilleur buteur. Ni meilleur passeur.
Mais est-ce que le être meilleur buteur fait de Mbappé le meilleur joueur de la compétition?
Non, pas forcément. C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais pour avoir le ballon d'or, Messi.
Oui, évidemment que ça raconte.
Messi n'a pas de Coupe du Monde.
Après, Messi. Il a,
parce que Messi commence à rentrer dans les débats quand il était avant la demi-finale d'hier déjà. Mais la chose, c'est que là.
Il a 8 buts quand même. C'est pour
voilà,
ça.
Il a mis 8 buts, mais il termine pas meilleur buteur ni meilleur passeur.
Oui, mais il
gagne pas la Coupe du Monde. Et c'est un joueur d'MLS. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a pour lui maintenant?
Il n'y a rien pour ça. Moi, personnellement, je ne mettrai pas Messi maintenant qu'il n'a pas gagné dans le débat du Ballon d'Or. Maintenant, juste, moi, personnellement, je veux rajouter quelque chose. Que ce soit pour le Ballon d'Or, pour les équipes de Didier Deschamps, vous en parlerez peut-être dans des futures émissions, il n'y a pas uniquement le meilleur buteur qui doit être valorisé. Quand tu marques 8 buts, ou par exemple un Jude Bellingham qui fait une énorme Coupe du Monde, ouais, qui marque 7 buts, c'est pas le meilleur buteur, mais c'est quand même un des joueurs, peut-être, je sais pas, il va peut-être avoir le titre d'ailleurs du meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc je veux dire,
vu la demi-finale où il n'a pas été aussi impactant que dans les tours d'avant, il n'aura pas.
Voilà, moi j'ai une phrase qui dit que, par exemple, pour une équipe, perdre en finale, c'est pas un échec, c'est seulement la triste fin d'une épopée formidable. Bah, c'est pareil pour les équipes, comme c'est pareil pour les joueurs. Un joueur peut très bien faire une Coupe du Monde exceptionnelle, en l'occurrence, Messi a fait une très grande Coupe du Monde, il n'est pas bon du tout en finale, et du coup, Messi, 39 ans, a quand même mis 8 buts et fait 4 passes décisives, donc était 12 fois décisif sur ses 7 matchs, je crois, en 7 matchs, ou 6,5, puisqu'il y en a un qui n'a pratiquement pas joué, en 6,5, c'est quand même tout à fait...
On peut pas dire ça, puisqu'il a quand même marqué dans ce match-là, où
En plus, il a marqué.
On va le compter, merci.
Mais non, c'est vrai, je dis 6,5, oui, j'enlève pas la partie, j'ai pas dit 6.
On est déjà à 8, hein. Il est à 8. Hein.
Et 8 matchs. Ouais, donc voilà, 7,5 ou 8. Et non, mais en tout cas, je veux dire, c'est quand même pas mal d'être 12 fois décisif. Donc je dis juste, mais effectivement, moi, je mets pas Messi dans la bagarre. Maintenant, après, on parle de Ousmane Dembélé, par exemple. Ousmane Dembélé fait, quand on dit pareil,
fait une meilleure Coupe du Monde
que Lamine Yamal, par exemple. Ouais. Une meilleure Coupe du Monde. C'est pas une énorme Coupe du Monde.
Ça dépend. Statistiquement, oui, mais est-ce qu'il fait une meilleure Coupe du Monde? Moi, je pense pas. Hein.
Individuellement, il fait une meilleure Coupe du Monde.
Yamal, il a quel match référence?
Mais Yamal, il s'inscrit dans un collectif. Là, il fait encore un très bon match.
Non,
mais
encore un très bon match. Il loupe beaucoup de choses. Il rate. Mais attendez, mais est-ce qu'on voit le même
match?
Moi je pense qu'il faut regarder les matchs.
Vous regardez trop les buts.
Non, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec les buts ou passes décisives. Lamine Yamal, d'habitude, sur le côté, il est remuant. Là, il perd combien de duels face à Tagliafico? T'as Tagliafico face à toi. Regardez combien de duels il perd.
Ils sont tous dans la surface.
T'as pas vu des vrais matchs de Lamine Yamal?
Tu connais son niveau, tu dis pas qu'il a fait un bon match. Je pense que Lamine Yamal en Liga joue les mêmes matchs que contre Argentine ce soir. Je pense que les formations sont pareilles. Je pense que contre Rétafé ils jouent tous en défense. Ils ont 11 en défense comme
non,
ça.
Mais si je peux permettre, si je peux permettre Léo, juste le Ballon d'Or, et c'est pour ça que certains, moi je suis pas en extase devant Ballon d'Or, c'est une référence, c'est une récompense individuelle.
Excuse-moi de te couper, il y a Sergio Ramos qui va ramener le trophée de la Coupe du Monde, cette légende espagnole qui a été aussi champion du monde, champion d'Europe aussi, qui avait fait la même chose, voilà, et qui embrasse, c'est le premier espagnol à embrasser la Coupe du Monde et qui va venir la déposer juste avant que les Espagnols vont tout simplement la récupérer. Ouais.
Donc juste ce que je disais avant, c'est que le Ballon d'Or, c'est une récompense individuelle. Donc ça se trouve, ça sera un peu fort de café de dire de ce que tu dis, Léo, c'est-à-dire qu'il a été bon à travers un collectif et tout ça. Je veux dire, les critères du Ballon d'Or, on les connaît. Il y en a un que j'ai oublié là, mais il y en a un, c'est d'être décisif pour son équipe, c'est-à-dire d'avoir fait basculer des matchs et fait gagner ton équipe sur des matchs. Le fair play et le troisième, je me rappelle plus le troisième, lequel c'est peut-être la performance en général. Le palmarès. Donc, si tu prends ces trois critères-là, c'est pas mérité, en tout cas pour Lamine Yamal. Et tu peux pas dire, pour le Ballon d'Or, je parle. Hein, je suis pas en train de dire que ça n'a pas été un très bon joueur.
Parce qu'il a pas été assez décisif.
Donc il mérite pire. Donc aujourd'hui, il y a qui aujourd'hui, malheureusement, là, du coup, j'ai assez dit ça. Il y a en 2024, je me rappelle. Je pense sincèrement que ça va être un peu un Ballon d'Or quand même au rabais, quoi. Parce que Kylian Mbappé, Harry Kane, on en parlait avant les minutes.
Harry Kane, moi je pense pas que ça sera un rabais, Harry Kane.
En fait, il y a pas de.
Moi je pense pas que ça sera un rabais, Harry Kane.
Ça sera quand même la première fois.
Tout le monde a sa carte à jouer.
Ouais, c'est ça.
Ils ont terminé 3e de la Coupe du Monde. 73 buts.
Oui.
Avec plus de je sais pas combien de passes décisives. C'est quand même un record. 73 buts en une saison. C'est quand même un truc de fou. Il est le deuxième meilleur buteur après Lionel Messi sur une saison.
Le problème, c'est que lors de la Coupe du Monde, Harry Kane, il n'impacte pas.
Il n'impacte pas à partir de la quart de finale. Faut le dire.
Oui, il met 6 buts, mais dans les matchs.
Donc le côté.
Il y a beaucoup de matchs où il n'impacte pas. C'est plus Bellingham qu'on retient Harry Kane.
Bellingham est le meilleur joueur de la sélection anglaise.
Mais ça, est-ce que ça lui ferait pas défaut?
Mais le problème, c'est que Bellingham. Avec le Real, il était blessé pendant 4 mois et il a pas gagné.
Voilà. Mais moi je parle pas de mettre Bellingham pour le Ballon d'Or, je parle pour Harry Kane.
C'est vrai qu'Harry Kane n'est pas le meilleur joueur
qu'on se comprenne bien, je veux dire, c'est pas un joueur au rabais qui ne mérite pas, parce que Harry Kane mérite certainement de recevoir un Ballon d'Or dans sa carrière à un moment donné.
Bah si c'est pas maintenant, ça sera jamais comme Haaland, comme Lewandowski.
Mais malheureusement, ça sera un peu un Ballon d'Or au rabais, parce que donner un Ballon d'Or
à
quelqu'un.
J'aime pas moi cette expression Ballon d'Or au rabais.
Et en tout cas, ça sera si jamais il a le Ballon d'Or, mais il y a aucune raison qu'il peut quoi. C'est quelqu'un qui aura pas gagné de Coupe du Monde, qui aura pas gagné de Ligue des Champions, qui aura pas été meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui aura pas été meilleur buteur de la Ligue des Champions, et qui dit qu'avec le Bayern Munich, par exemple, en demi-finale, n'a pas été décisif pour son équipe.
Mais justement, qui réunit ses stats?
Il a marqué
au
demi-finale.
Après, celui qui est proche,
il a fait pas gagner, mais
Dembélé qui est proche.
Qui réunit ces conditions-là?
Moi, je le donne à Dembélé. Bah si c'est ça, moi, je le donne à Dembélé.
Mais parce que Dembélé, il a quand même mis 6 buts, tu vois. Il a quand même été
8 en Ligue des Champions, et 6 buts et 2 passes décisives
en Coupe du Monde. Voilà, il prend la Ligue des Champions et il prend la Ligue 1.
Et il termine quatrième. Voilà. De quatrième. Donc il
est un peu potable un peu partout.
Il donne le Ballon d'Or.
En plus, il a des bonnes stats. Hein,
on donne le Ballon d'Or à Harry Kane. C'est pas moi qui vais me plaindre. Hein, parce que j'aime beaucoup ce joueur. Et puis c'est mérité. On le donne à Dembélé. Pareil, même Mbappé. Je dirais un peu, bon, il a rien gagné. C'est un
problème.
Parce que
Fabien Ruiz n'est pas autant impactant.
C'est dommage.
Ruiz a été beaucoup blessé aussi.
Au PSG
aussi. Il est venu que sur la fin.
Il a eu 5 mois de blessure entier.
C'est pour ça que côté espagnol, il n'y a personne qui sort du lot. C'est trop difficile.
Même Yamal, parce que Yamal fait pas non plus une immense saison.
Il fait pas une bonne compétition non plus. Pour moi, c'est pas une bonne compétition. On attendait toujours.
Non.
Et c'est ce que Luis de la Fuente disait. Hein. Le meilleur match de Yamal arrive. Ne vous inquiétez pas, le meilleur de Yamal arrive.
Ils ont joué
et lui, il disait le meilleur arrive. Mais le meilleur n'est jamais arrivé.
Luis de la Fuente, il a aussi dit, juste après l'équipe de France, juste après la victoire contre l'équipe de France, nous avons gagné face aux meilleurs joueurs du monde en tant que meilleure équipe du monde.
Exactement.
Et c'est justement ce contexte d'équipe qui fait qu'on a beaucoup de mal à dégager un potentiel Ballon d'Or parmi ces champions du monde espagnols. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut le rappeler ce soir. C'est pour ça qu'il faut le rappeler ce soir.
De Coubarsy, qui a été élu, je pense, meilleur défenseur du tournoi.
Ou meilleur jeune, peut-être.
Ou
non,
meilleur jeune. Young player.
Meilleur jeune.
Il a 19 ans.
Il a
19 ans.
Jusqu'à 20 ans. Mais après, ça va jusqu'à quel âge?
Oh non, Bellingham,
ça va jusqu'à quel âge?
Moi je crois que c'est 21 moi.
21
ouais, parce que c'est la majorité.
Golden Boy c'est 21 il me semble.
Ouais, donc déjà vous voyez, Lamine Yamal ne remporte même pas ça.
Il après, va pas remporter le meilleur.
C'est normal. Aujourd'hui il est pas dans les 10 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde ou dans les 15 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde.
Il y a un jeune joueur.
C'est pas choquant. Hein.
FIFA
pas
du meilleur joueur. Voilà, on va voir déjà qui vont mettre meilleur joueur à la Coupe du Monde.
Meilleur joueur de la Coupe du Monde ou meilleur joueur de la finale?
Déjà, meilleur gardien.
Meilleur gardien.
Il a pris un seul but.
Il n'y a rien à dire.
Exception de la compétition. Un seul but.
Mais il y a Mbappé qui pourrait mériter le titre de meilleur joueur de la. Mbappé. Est-ce que pour certains, Mbappé mériterait pas, avec son titre de meilleur buteur, d'être le meilleur joueur de la Coupe du Monde?
Ouais, c'est dur. Le problème, il termine même pas troisième.
Ah oui, c'est ça.
Ça se discute quand même.
Ah, il termine même pas troisième. Après,
c'est
sûr
que buteur, mais oui, il termine quatrième.
Il est meilleur buteur, il termine quatrième.
Mais
on prend le joueur individuel qui aura autant impacté.
Moi, je pense qu'ils vont mettre Ivan Donnarumma.
Moi, je pense Rodri.
Ils vont donner à Rodri, je pense.
Mais Rodri mérite plus, je pense.
Bellingham aussi.
Peut-être qu'ils vont donner à Messi aussi, c'est possible.
Parce que Bellingham, c'est 7 buts avec 0 pénalty. 7 buts de passe décisive avec 0 pénalty.
Ouais, Bellingham, il y en a pas mal qui méritent en fait.
C'est ce que je disais là avant que je sois interrompu. C'est que je me méfie qu'il le donne pas à Messi. Justement. Comme
en consolation,
ça me ferait plaisir.
Non, pas particulièrement. Non, absolument pas particulièrement.
Ça pourrait. Hein.
Ça ferait pas du tout particulièrement plaisir. Hein. Mais je me méfie. Là, c'est
Voilà, c'est Rodri qui va recevoir sa distinction. Ah. Là, en direct.
C'est meilleur joueur de la finale ou c'est meilleur joueur de la compétition?
Non,
ça va être le meilleur de la compétition, je pense.
Les prix, c'est meilleur joueur de la compétition.
Ouais, c'est meilleur joueur de la compétition.
Meilleur joueur de la compétition.
Adidas Golden Boy.
Mais Modric avait eu.
C'est dis-moi, il va lui redonner le ballon d'or.
Non. Tu vois, pour tout ce qu'il a fait, aller à la limite, on peut le laisser son ballon d'or pour tout ce qu'il a fait. Voilà. Et tout ce qu'il fera encore.
Mais il n'y a pas une histoire justement de meilleur prix du comeback ou un truc comme ça?
Non, faut arrêter ça.
Non, mais justement, c'est pour ça que
on va dire meilleur.
En Ligue 1, il y avait.
Oui, il y a eu ça. En Ligue 1, il y a eu un truc comme ça, non?
Cette année, il y a eu parce que c'est Thauvin qui l'a eu.
Oui, il me semble, oui. Parce que comme je sais que, bon, enfin, nous savons tous que.
C'est un magnifique joueur quand même.
Mais c'est ça.
Rodri est revenu d'une grave blessure.
Oui, mais c'est ça.
On peut dire que. Aujourd'hui, Rodri mérite vraiment son ballon d'or 2024 avec la Coupe du Monde qu'il a fait.
Non, je pense pas encore. Même ça, je pense pas. Non, j'attends encore.
On va dire qu'il le
mérite. J'attends encore.
Non, mais le débat, honnêtement, on parle beaucoup du débat du ballon d'or. Il a été complètement remis. Les cartes ont été totalement rebattues avec cette Coupe du Monde.
Meilleur gardien, meilleur jeune et meilleur joueur. Il n'y a rien à dire. Hein. L'Espagne était largement au-dessus. Hein.
Oui, l'Espagne a été largement au-dessus.
En tant qu'équipe,
en tant que bloc équipe, c'est comme à l'Euro 2024, on a l'Espagne et les autres
mais
sur le plan
collectif. Mais ils ont pas un trophée pour celui qui a fait le plus de fautes de la Coupe du Monde.
Restons concentrés.
Restons concentrés.
Ouais, là, on l'a perdu.
Je pense aussi qu'on devrait voir.
Ah, mais attendez, regardez, je crois que c'est pas le team Messi qui échappe une distinction.
Non, ça va.
C'est la haie d'honneur pour la médaille de finaliste.
On va leur donner leur médaille. On aurait pu leur envoyer à Buenos Aires direct, ouais. Ils sont rentrés avec.
restons bah, quand
attendez,
même.
Voilà.
Respectons quand même le protocole.
Voilà, il y a le patron qui vient récupérer. Voilà. Qui vient récupérer sa médaille autour de son employé.
Ah, ça fait quand même pas. Ça fait quand même,
là, il a complètement craqué là, déjà.
On va arrêter de. Voilà.
Non, mais l'Espagne a largement mérité de remporter cette finale vu du jeu proposé par les Argentins. Voilà, sans.
Sans aller plus loin dans tout ce qui est spéculation, on le saura tôt ou tard s'il y a eu des malversations ou autres. On aura tôt ou tard des journalistes.
C'est déjà
sorti plus ou moins.
Les malversations financières sont sorties il y a une semaine. Bien sûr, mais voilà, moi en fait c'est ce que j'attends moi à la suite de cette Coupe du Monde, parce qu'on a passé quasiment tout notre temps à parler autant de sportifs que de tous les scandales qu'il y a eu autour avant et pendant cette Coupe du Monde.
Il y en a eu en plus, hein.
Et il y en a eu un énorme paquet. Donc moi justement j'attends, maintenant que la Coupe du Monde est terminée, nous avons notre vainqueur, nous avons notre finaliste, etc., etc. Moi j'attends de savoir ce qu'il va se passer pour l'avenir du football, et si jamais il y a des dossiers qui vont ressortir vis-à-vis de cette Coupe du Monde. Moi je suis confiant qu'il y en ait un paquet, mais j'attends de savoir de quelle nature seront ces dossiers là parce qu'on a tous parlé en tant que supporters en disant corruption, ouais regardez les Argentins ils font 74 000 fautes, il y a un seul carton jaune qui est sorti du match, le Paraguay ils ont détruit les Français avec 89 000 fautes, ils ont pas eu un seul carton jaune, etc. voilà, donc
les larmes ont fini par couler.
C'est
une grosse image. Hein.
Bah c'est la dernière. C'est
la dernière.
Sans doute la dernière. Donc
vraisemblablement, faudra pas pousser plus loin. Il y en a qui ont l'impression qu'ils se réjouissent de ça.
Qui se réjouissent de cette image en plateau. On va pas tout dire.
On se réjouit surtout de pas avoir vu un certain type de football gagner, quoi.
Voilà, c'est ça qu'il faut noter. Comme l'a dit Philippe en début d'émission, le football avec un grand F l'a remporté ce soir. Sachant qu'on a déjà eu le scandale du carton rouge retiré de Folarin Balogun pour Belgique, États-Unis, retiré de manière absolument honteuse sur coup de fil de Donald Trump à Infantino qui s'en est réjoui même en conférence de presse. Là, pour le coup, une fois de plus, parce que les Belges avaient gagné, ils avaient terrassé les Américains, une fois de plus, le football avec un grand F l'a remporté ce soir face à une équipe qui a une philosophie de jeu.
Puis tu l'as dit à propos des potentiels dossiers qui pourraient sortir, mais il y a aussi des questions sur le format du football. Est-ce que le football va évoluer en suivant ce style qu'a opté la Coupe du Monde, c'est-à-dire par ces espèces de cartons rythmés par des pauses fraîcheurs malgré parfois qu'il fasse 18 degrés. Est-ce que ça va se généraliser? Est-ce qu'on aura des mi-temps de plus en plus longs? Là, c'était prévu pour être 17 minutes. Au final, c'était quasiment une demi-heure, hein, la mi-temps, avec le show. Donc bon, on peut se poser des questions.
Bah déjà, d'après ce que j'ai pu, lire...
Excusez-moi, on va juste poursuivre, hein, parce qu'on va bientôt terminer. En tout cas, on est en train de suivre voilà, le seul drapeau qui est étiré sur cette pelouse. C'est le drapeau de l'Espagne, qui sont championnes et qui vont monter tout simplement sur les petites remorques. Et voilà, et ils attendent bien. Ah, c'est voilà, faut que ça soit haché un à un, parce qu'on pense qu'il y a une... Voilà, Raya qui va récupérer ce ballon. Et Unai Simon qui avait été beaucoup décrié, hein, avec Raya, tout ça qui était sur le banc, on demandait pourquoi il ne jouait pas. En tout cas, il l'a montré pourquoi c'était le titulaire. Nous allons juste poursuivre, messieurs. Je veux juste qu'on revienne rapidement, puisqu'on n'a pas parlé de la France, hein, qui a perdu assez honteusement, en tout cas en première période, face à l'Angleterre. Et là, à ce moment-là, on n'a pas entendu de Tourelle. Hein, or que le coaching de Tourelle est excellent, Jason.
Le coaching de Tourelle sur l'entrée de Bellingham, bah, il a bien géré parce que l'entrée de Bellingham et Anderson ont clôturé la fin du match face à l'équipe de France.
Et pourquoi on parle de France-Angleterre?
Ouais, j'avoue, j'ai pas compris.
Mais parce qu'on n'a pas parlé de France-Angleterre, c'est pour ça que je fais un point sur France-Angleterre.
Ah, franchement, okay, on a déjà fait le tour de la question.
Non,
je pense,
pas ici en tout cas.
Pas ici, bah voilà. Certes, bah, on va faire le tour une fois de plus de la question. Enfin, moi je le dis parce que je suis très agacé. Oui, la France a perdu honteusement face à l'Angleterre. Oui, la première période a été absolument indigente. Elle a été atroce, avec 4-0 à la pause et quasiment un non-match. Oui, il y a une tentative de remontée qui, malheureusement, s'est mal terminée avec la victoire de l'Angleterre, 6 buts à 4 sur un score de tennis. D'accord. Moi, ce qui m'agace profondément à la suite de ce match, c'est que depuis, on va revenir encore plus loin puisqu'on est revenu sur l'Angleterre, depuis la défaite contre l'Espagne en demi-finale, on est sur une espèce de chasse à l'homme. Il suffit de regarder la manière dont le traitement médiatique s'est fait après le match face à l'Espagne. Alors on a eu un coup, c'était Dembélé le responsable. On a eu un coup, c'est Rabiot qui détruit le vestiaire. Là récemment, c'est Cherki qui prend extrêmement cher, alors que le gars c'est un remplaçant. Il est jeune, il a 22 ans, il vit sa première coupe
c'est
du monde.
Ah, après son attitude, voilà, elle est méritée.
Son attitude est quand même amplement méritée. Excuse-moi, mais demain on te prend, on le prend. Il est remplaçant. Pourquoi il est remplaçant? Parce qu'il n'a pas le niveau pour être 10 à la place d'Olise. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc quand on te donne de petites minutes, tu joues pour... Là, tu joues pas en club. Tu joues pour la nation. Tu es censé représenter la nation. Tu as un comportement... Tu es censé être exemplaire.
Son comportement n'est pas exemplaire.
Didier Deschamps lui parle et on le voit tous. Il l'envoie devant des millions de personnes. Il l'envoie brasser de l'air. Voilà, non, donc faut pas, non, il y a des choses qu'il faut dire telles qu'elles sont, faut appeler un chat un chat.
Non, mais même,
voilà.
Je suis désolé,
donc Cherki, quand on te donne des petites minutes, tu dois les prendre parce que tu n'as pas le niveau. Quand on te laisse jouer,
c'est
ton
pas comme s'il avait montré quelque chose
dans
l'équipe de France.
Non, mais il a absolument
d'accord.
Rien
non, mais
montré.
Non, mais d'accord.
Voilà. Non, mais faut pas dire non, mais d'accord, c'est la vérité.
Non,
c'est
non,
tout.
Mais même, il y a une question de vérité là-dessus. J'entends le fait qu'il ait pas été si influent que ce qu'il a fait à Manchester City cette saison.
Il a été mauvais.
Voilà.
Faut
je
le dire, il a été mauvais.
Je l'entends, certes, mais moi, cette chasse à l'homme, moi perso, je n'y adhère
pas
du tout. Si, c'est une chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme parce que depuis la fin du match contre l'Espagne, on s'acharne à trouver un responsable. Un coup, ça a été Deschamps. Mais un coup, ça a été Olise qui a.
Il a été influent de quoi? Excuse-moi, je te coupe.
Oui.
Il a été influent de quoi sur Manchester City cette saison?
Bah, justement.
Dis-moi.
Tout le monde nous dit que.
À part que les gens ont aimé. Non, mais.
Il a distribué tant de passes décisives.
Combien de buts? Combien.
Il a été adulé par Pep Guardiola, etc.
Il a dit qu'il était bon. Une fois, il a dit. Alors, effectivement, tout le monde sait de combien de joueurs Pep Guardiola a dit qu'il était bon.
Je comprends mieux pourquoi Pep Guardiola, des fois, le laissait sur le banc.
Mais très souvent, moi, je peux vous dire que justement, on en parle. Et là, moi, je suis un fan de Manchester City. Les 5-6 derniers matchs, en tout cas, ceux-là, en tout cas, je me suis
forcé
à les
regarder. Les plus importants, il les a mis remplaçants.
Je me suis imposé de les regarder du début à la fin. L'attitude de Cherki dans ces matchs-là, elle est honteuse, quoi. Et parce qu'une fois, il mettait un corner, c'est compté comme une passe décisive. Donc, c'est tout. Maintenant, je partage l'avis de Elhadj. Warren Zaïre-Emery. Il est plus jeune encore que Cherki. Il a joué, il a eu du mal aussi les 20 premières minutes.
Or, qu'il mérite tout autant sa place. Tout autant.
Mon point de vue à moi, c'est qu'il a eu du mal à cause, entre guillemets, à cause de Cherki, qui défendait pas demain. Ça, c'est mon devoir, c'est mon point de vue. Mais ce que je sais, c'est que contre le Maroc ou contre, je sais pas, Olise, il défend quand même quand il est rentré dans les matchs, là, quand il est rentré à un moment, il a fait 20 minutes, je crois, je sais pas si c'est le Maroc ou quel match il a joué. Ouais. Tout le monde derrière disait, il mérite de jouer et tout. Il a fait une rentrée à fond, quoi. Ouais. Comme t'as jamais vu Cherki. Alors, c'est pas de sa faute, Cherki, il a été sélectionné, il fait ce qu'il peut, c'est un joueur qui a du talent et tout ça. Mais effectivement,
oui, il a été immature.
Se comporter comme ça, je suis pas d'accord. Et moi, on en parlait ensemble avant l'émission, j'ai suivi, il se trouve que j'ai suivi les Jeux Olympiques 2024, et ben le Cherki des Jeux Olympiques 2024, c'est exactement le Cherki là de la Coupe du monde, quoi. C'est le mec qui ronge son frein sur le banc, qui est jamais décisif quand il rentre, et t'as rien qu'à le regarder. Même s'il est très drôle, très sympa dans toutes les vidéos qu'on voit, rien qu'à le regarder, t'as l'impression qu'il dit putain, je mériterais de jouer de plus, c'est pas normal.
Là-dessus, j'entends. Voilà. Mais moi, ce qui m'agace encore une fois, c'est cette espèce de chasse à l'homme. Avant-hier, c'était Dembélé, puis ensuite c'est passé sur Olise, puis là aujourd'hui c'est Cherki. Mais en fait, le problème, c'est que collectivement, et moi je veux revenir sur le sportif, collectivement, depuis le match contre l'Espagne, c'est le jeu dont on louait la puissance offensive, c'est complètement délité.
Pourquoi? Parce que depuis le match contre...
On voit Donald Trump qui s'incruste, pardon de vous couper, mais dans la photo.
Depuis le match contre le Paraguay, pour finir ce que j'allais dire, depuis le match contre le Paraguay, Olise a disparu. À part, il fait une bonne deuxième mi-temps contre le Paraguay. Et tout le jeu de l'équipe de France dépend de la qualité d'Olise. Personne va dire ici que c'est pas un bon joueur. Il fait 7 passes décisives. Oui, il a fait une saison extraordinaire avec le Bayern Munich. Mais le problème, ce qu'on peut éventuellement reprocher à Didier Deschamps, c'est pas avoir de plan B. Le plan B, c'était éventuellement le plan B. Et moi, personnellement, qui était pas du tout pour la solution Cherki, le seul plan B qu'il avait finalement, c'était Cherki,
tout à fait.
Ou éventuellement, et même Dembélé, c'est pas un 10, c'est un numéro 9, il joue pas en soutien d'un numéro 9 de Dembélé.
Dans ce cas-là, pourquoi il n'ose pas sortir un offensif et rentrer un milieu à 3?
Voilà, bah oui,
c'est ce que j'ai demandé depuis le début de la compétition.
Par exemple, dans la position comme Manu Koné, c'est quelqu'un qui va beaucoup vers l'avant.
Il se projette, évidemment.
Et tout ça qui se projette, même Rabiot qui a joué plus haut à Marseille, il jouait souvent plus haut et tout. Il y a d'autres joueurs. Ah oui, non, mais peut-être.
Il n'a pas voulu se renier parce que jusqu'ici, jusqu'à cette Coupe du Monde, il jouait avec un 4-3-3.
C'est là que Deschamps s'est planté et on l'a vu.
Même un 4-2-3-1
et c'est pour ça que moi, personnellement, en tant que... C'est triste à dire, parce que c'est peut-être de dire « Ah ben, je montre que j'ai raison et tout, je suis content ». Je pense que sans le match d'hier, de Cherki, par exemple, on sera encore de lire et d'entendre dans les médias sur RMC. Il sera temps. Zidane, il va faire confiance à Cherki. Il va donner les clés du camion à Cherki.
J'espère que ça va venir même de plus haut. Hein. J'espère que c'est la fédération qui va interdire à Zidane de prendre Cherki. Hein. Je pense, en tout cas, avec le comportement qu'il montre, j'espère qu'en tout cas, sera sanctionné. Voilà. J'espère qu'il sera sanctionné. Parce que le boss, jusqu'à présent, de l'équipe de France, c'est Didier Deschamps. Et manquer de respect comme ça devant des millions de téléspectateurs.
Donc ça veut dire que tu trouves que l'attitude de Cherki, elle est plus à noter que Rabiot qui défonce ses coéquipiers en zone mixte en se mettant en dehors de la faillite du match d'hier soir.
Je trouve que,
je suis désolé. La faillite, elle est collective. C'est ça que vous comprenez pas.
mais tout le monde sur Chirky.
Ravdo, il a pas eu complètement temps dans ce qu'il a dit non plus.
Qu'il faut pointer du doigt clairement quand t'as une telle chose, parce que là on parlait de 15 ans où il était Deschamps sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde voulait bien terminer pour eux, mais apparemment, et comme il l'a dit, hein, j'ai fait les mauvais choix, je me suis trompé en mettant titulaire des joueurs qui ne méritaient pas d'être titulaires. Bon, c'est des joueurs, ils sont rentrés limite, ils sont sabotés, ils ont saboté le match, parce que prendre 4-0 comme ça face à une équipe de l'Angleterre, c'est une honte. Donc derrière, je m'attendais même à ce que Deschamps sorte les noms et déchire tout le monde. C'est ce qu'il aurait dû faire.
Non,
voilà,
c'est
ce qu'il aurait dû faire.
Il a sorti des joueurs à la pause. On l'aurait reproché à Deschamps justement s'il avait pas sorti les joueurs à la pause, s'il avait gardé son système, s'il avait gardé les mêmes joueurs.
Changé à la pause. Bien sûr, ça.
Bah non, puisque tu dis, il aurait dû taper sur les joueurs de manière explicite et tout. Non,
parce que c'est entièrement de leur faute.
De quoi ?
La débâcle hier.
Mais c'est les premiers à le dire. Mais le problème, c'est que justement,
après, on peut pas tout remettre à Cherki.
Ils ont tous été mauvais.
En plus, Cherki, il a été remplaçant.
En fait, il y a quelque chose que tu ne veux pas comprendre et que tu fais semblant de chercher, or que tu ne trouves pas, or qu'on dit une seule chose. Ils ont été mauvais. Comme Cherki a été mauvais, comme Malo Gusto, comme Konaté, comme Lacroix. Ils ont été mauvais.
Ce que je viens de dire,
non, ils ont été mauvais. Mais maintenant, la différence entre les deux, quand derrière, Deschamps les reprend, il y en a aucun qui fait preuve de ce comportement là. Et derrière, quand il l'envoie balader, après tu l'avais posé, comment il était assis, comment on joue une troisième place de Coupe du Monde, tu fais une prestation plus que honteuse, tu dois te cacher, tu dois être assis au fond,
assis comme une des quartiers,
t'es assis comme ici, absolument rien.
Ça c'est l'immaturité cherchée.
Au bout d'un moment, arrête, il y a des mecs comme Zaire Emery qui sont moins matures et qui ne font pas ce genre de choses. Faut arrêter de protéger ce qui ne peut pas être protégé.
Moi je protège pas Cherki.
Donc ça doit être sanctionné.
Tu me fais dire quelque chose que je n'ai pas dit.
C'est ce que j'ai sous-entendu, en tout cas.
Je suis en train de dire que là on est à la recherche. Non, aucunement. Ce que j'essaie de dire justement, c'est qu'on est en train de faire une espèce de chasse à l'homme, alors qu'en réalité, et tu l'as dit toi-même il y a quelques secondes, tous les joueurs de l'équipe de France ont été mauvais depuis la fin de la demi-finale contre l'Espagne et encore plus contre l'Angleterre dans cette petite finale. Moi, chercher à dire ouais, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, mais en fait le problème c'est qu'il est collectif. Deschamps a raté sa préparation sur ce match-là.
C'est vrai qu'il y a quand même une semi-cabale autour de Cherki. Bon, évidemment, elle est
discutable. Moi, je m'en fous,
son comportement est vraiment néfaste.
Mais contre l'Espagne, Cherki, il est même pas mis dans l'eau contre l'Espagne.
Les cadres, pour moi, de l'équipe de France se cachent, genre. Les cadres de l'équipe de France n'ont pas été à la hauteur sur cette Coupe du Monde. Je parle à Mignon.
Faut pas remettre
Mike
la Coupe du Monde.
Je suis pas d'accord, c'est à quoi que t'appelles les cadres. Effectivement, Mike Mignon, il rate sa Coupe du Monde.
Ils sont là depuis longtemps.
Mais les cadres, pour moi, les cadres de l'équipe
ils ont
de France,
pas été bons juste face à l'Espagne.
C'est Kylian Mbappé.
Et la première mi-temps d'Angleterre, on peut pas remettre toute la Coupe du Monde en cause.
Tchouaméni, c'est un des rares cas justement qui a pas du tout été au niveau de la Coupe du Monde.
Tchouaméni,
il a pas été bon face à l'Espagne, mais les matchs avant l'Espagne, il était très bon.
Mais vous avez vu les matchs qu'il a
été très bon.
Parce que carrément, on
avait l'interrogation contre le Paraguay de se dire ah Tchouaméni il est pas là face au Paraguay parce qu'il est Madava, il a été très bon. On a eu un doute parce que tout le monde était rassuré parce que Koné a fait une grosse prestation à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il a été remis face à l'Espagne. Faut pas oublier. N'oubliez pas ce qui s'est passé avant.
Tchouaméni a fait des très bonnes entrées.
Mais oui, mais Tchouaméni il a été très bon.
Il a pas été très bon.
Avant l'Espagne, c'est parce que l'Espagne.
La preuve, il y avait un débat sur Koné, est-ce qu'il devait jouer à la place de Tchouaméni.
Non. Le débat il existait à la fin du match.
l'Espagne.
Bah oui, c'est tout.
Parce que là, le match était déjà passé et on a vu que Tchouaméni s'est caché. Mais le match avant l'Espagne, Tchouaméni n'avait pas Dema. Beaucoup de choses se disaient, on voulait tous. Beaucoup de réclamer Tchouaméni face à l'Espagne parce qu'il disait qu'il manquait un organisateur de jeu. Tchouaméni était bon dans les transversales et pour faire le créateur de loin. Non, et on a vu que quand l'Espagne,
il a joué 5ème défenseur.
Ah oui, oui. Mais c'est ce que je te dis.
Moi, je pense qu'il a été.
Les critiques sont venues après le match de l'Espagne.
Mais c'est ça. Parce que jusque-là, il est bon. Mais maintenant, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que Tchouaméni, comme il fait des choses extra sportives, les gens ont cette facilité de lui tomber dessus comme si c'était leur camarade. C'est tout simplement ça. Il a la gueule de l'emploi. Dès qu'il y a un seul truc, on tape sur Tchouaméni. Hier, il a pas joué. Hier, il aurait joué. On lui aurait attribué les cinq
c'est du foot fiction.
Bien sûr que si.
Faut arrêter d'avoir.
Bien sûr que si. Je suis pas énervé. Je suis en train de vous dire tout simplement que Tchouaméni.
Surtout pas.
Voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Attendez, il est vice-capitaine de l'équipe de France, mais ça a tort qu'il est vice-capitaine de l'équipe de France.
Oui. Bah, moi personnellement, je jouerais même pas en équipe de France. Si c'était moi, alors il serait pas capitaine.
Qui est-ce que t'aurais pris toi de toute façon en équipe de France?
Je sais pas, j'aurais fait jouer Zaïre Emery ou Koné à sa place.
Mais Tchouaméni, tu trouves que sa saison elle est bonne généralement à Tchouaméni?
Cette année, il a fait une bonne saison.
D'accord. Non. Les 6 premières, à la limite, les 3-4 premiers mois, ils sont pas bons, mais pourquoi? Ils jouent défenseur Axel avec un mec qui change tous les 4 matins. Tu le mets avec Asensio, tu le mets avec Eder Militao, tu le mets à un jeu où il ne joue pas à son poste. Un mec qui joue défenseur central. On te met charnière. Non, mais attends, on te met charnière défenseur. On te met dans la charnière défenseur. On te met défenseur central avec un coéquipier qui change tous les 4 matins. Si c'est pas Rudiger, c'est Asensio. Si c'est pas Asensio, c'est Eder Militao. Ça change tous les 4 matins. Ou c'est Hussein. Faut arrêter 2 secondes. Donc Tchouaméni, quand il a joué milieu de terrain, c'était un patron. Et c'est ce qu'on disait. Voilà.
Le Real Madrid, ils ont été pourris toute la saison.
C'est faux. Ils ont tapé Manchester City aller-retour. Ils ont été pourris. Manchester City, on va dire, c'était un petit Manchester City. Voilà, c'est ce qu'on va dire après derrière. Ils jouent contre le Bayern, tout le monde les voyait. Attendez. Tout le monde voyait le Bayern largement au-dessus. Non, mais attends.
Tu vis dans un autre monde, Eric, ou quoi?
D'accord, ouais, je vais dans un autre monde. Tout le monde voyait le Bayern au-dessus du Real.
On voyait quoi?
Par contre, respecte Théo, parce que tu vois, là, moi je te respecte, mais respecte-moi.
Mais moi
parce
aussi,
que tu
commences à me dire,
ouais,
il y avait débat visiblement sur Tchouaméni, mais sinon en règle générale, Upamecano, Dembélé, quoi, moi c'est mon avis, hein, Mbappé, Rabiot, c'est des gens qui sont des cadres, qui sont des gens qui ont plus de sélection et qui font une très bonne Coupe du Monde. Maintenant effectivement, la défaillance, je suis d'accord, parmi les cadres, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Mac Maignan, par exemple, il a été quand même très inquiétant dans cette Coupe du Monde. Donc, parmi les cadres, mais sinon, les cadres en général, après, Koundé, il a fait du Koundé, hein. C'est un cadre, Koundé, quoi. Si je regarde par rapport à la durée, au nombre de sélections qu'il a, maintenant, il peut pas, Lucas Digne, déjà, moi qui suis supporter du PSG, savoir que ce mec va jouer au PSG, ça me rend malade, quoi. Donc,
j'avoue, j'étais pas prêt à moi sur transfert.
Je parle pas de ce nom-là parce que ça m'exaspère.
Ça rassure pas du tout.
C'était quand même mieux que Théo Hernandez.
Ah oui, dans
ouais, la soirée, pas difficile, presque. Hein.
Mais c'est vrai que je me réconforte en disant que pour jouer Angers, Auxerre et Strasbourg, ça ira. Et puis tous les autres matchs, comme ça, c'est
juste. Ah bah, après, il est pris pour être une figure de Mendes.
En tout cas, les cadres, les vrais cadres, ceux qui étaient par exemple à la finale de la dernière Coupe du Monde, Dembélé, Mbappé, Upamecano, il était à la finale. Comment il s'appelle, il y en a l'autre que j'ai cité tout à l'heure, que je retrouve plus son nom.
Il y avait Théo Hernandez aussi.
Non, bref, peu importe. En tout cas, Dembélé, Mbappé, Rabiot, c'était Rabiot, je pensais. Ils ont été, mais eux, en tout cas, ils ont été au niveau de, ils ont été, à peu, je trouve qu'ils ont été à peu près à la hauteur de leur truc. Maintenant, c'est autour que ça a merdé. Maintenant, moi, personnellement, côté un peu, peut-être un peu malicieux, machin, je suis ravi du scénario du match d'hier. Comme ça, ça nous non mais c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai,
oui, parce qu'il y avait des interrogations.
Ça nous évite des interrogations. des trucs je dis des médias, bah bien sûr Zidane d'origine algérienne, Cherki qui jouait pas parce que on l'a vu ça partout, parce que Deschamps est un raciste, que machin et tout ça. On s'épargne ces débats-là. Cherki jouait pas non pas parce que Deschamps est raciste, mais il jouait pas parce que, comme l'a dit LH tout à l'heure, il a pas le niveau pour jouer. On s'est embrouillé pour 10 passes, il doit marquer 4 buts je crois en première ligue pour peut-être 10 passes décisives et un titre de meilleur jeune je crois.
En plus, il a pas été boycotté Cherki parce qu'il a eu des minutes dans cette Coupe du Monde.
Il les a pas transformés, il les a juste pas bonifiés, je pense.
Il sera peut-être très bon dans 4 ans.
Après, ce qu'il a mal accepté, je pense, c'est les matchs amicaux qu'il a fait qui étaient très bons.
Ouais.
Eh ben, lui, il s'est déjà vu peut-être dans la peau d'un futur titulaire, et qu'en fait, il s'est dit peut-être que dans la Coupe du Monde, il allait monter en puissance, et qu'au final,
et puis dès que le quatuor devant a éclos,
en fait, il était écarté directement.
Surtout qu'il aurait pu avoir plus de minutes si Dembélé aurait joué 10, parce que c'était Dembélé qui jouait 10 au départ.
Oui,
et Michael Olise en match amico, c'était changé, triplé, etc. Du coup, on était sur Michael Olise, on était tous, on disait tous en tout cas qu'il allait faire une belle compétition. Et c'est ce qu'on attendait de lui. Et du coup, dès que ça a changé, Dembélé, Ousmane Dembélé 10-10, son temps de jeu, je pense, il s'est réduit au moins en deux. Au moins. Parce que Ousmane Dembélé, c'est un mec, tu peux le sortir à la 70e, il va pas trop, tu vois, il va pas trop aller,
dès
etc.
Dès le deuxième match, t'as compris que la Coupe du Monde de Cherki était terminée. Ouais, quoi.
À partir du moment où il était remis en 10, c'était fini.
Parce qu'il a été décisif aussi. Ouais, c'est ça.
Et puis il n'est pas. Bon, on va pas non plus, effectivement, même moi, je parle sportivement, là, je parle même pas d'état d'esprit, s'acharner forcément sur lui, mais forcé de constater, effectivement, que Zaïre Emery, il a fait une rentrée, tout le monde a dit ah c'est super, c'est machin et tout ça. Lui il a aucune entrée où t'as entendu parler des joueurs de l'équipe de France dire ah il est talentueux, il va nous apporter, il va ceci, il va cela et tout ça. Je me rappelle l'Espagne par exemple, pas contre l'Espagne, un collègue qui a un grand fan de Cherki, qui a un Lyonnais qui jure que par Cherki, il y a plus qu'une solution à 20 minutes de la fin, Ryan Cherki machin et tout. Moi-même aussi je me disais pourquoi pas effectivement tenter cette chance là puis finalement ça apporte rien quoi, il y a rien du tout, donc c'est compliqué. Maintenant effectivement il y a, contrairement à ce que veulent nous faire croire certains médias, il va falloir changer des choses. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire, mais beaucoup en amont, sur par exemple apprendre à travailler sur des latéraux, avoir des vrais latéraux.
Oui, d'avoir un vrai circuit de passe et aussi une assise défensive. Parce qu'on voit bien que, par exemple, c'est pas pour taper sur Cherki, mais quand tu as un Cherki et un Mbappé, c'est pas possible parce que tu as deux joueurs qui font un semblant de défendre. Précis. Donc ça veut dire qu'en gros, les deux six se retrouvent directement acculés et transpercés. Et on l'a bien vu hier avec le match face aux Anglais. Et tout le monde réclamait Malogusto. Malogusto, ça a été une catastrophe. Koundé, il peut se dire qu'il est tranquille. Théo Hernandez, c'est pas mieux sur le côté gauche.
Il faut trouver un arrière gauche, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il faut trouver un formé ou je sais pas.
Adrien Truffert, juste pour savoir, il joue à quel poste ? À gauche ou à droite ?
Il joue arrière gauche.
Alors ça peut déjà être un nom à cocher.
Ouais, mais c'est pas non plus.
Après, il a déjà été testé une fois. C'était un peu compliqué.
C'est sur un match Bourbier.
Après, c'est un joueur de Bournemouth. C'est pas ce qui est claquant pour l'équipe de France.
On parle pas d'un top player.
Des top players qui ont été en équipe de France et qui se sont ramassés la gueule parce que malgré le fait qu'ils aient joué à Chelsea ou au Milan AC ou peu importe dans un gros club, il y en a eu. Pourquoi pas. À mon avis, je pense qu'il faut piocher sur des valeurs sûres qu'on voit dans les 5 grands championnats, mais aussi parmi les espoirs si on peut trouver des latéraux. Parce que j'avais vu il y a longtemps ça, c'était bien avant la Coupe du Monde, un confrère qui disait cette Coupe du Monde peut être extraordinaire pour la France, mais à une condition, si les latéraux font le même, délivrent la même Coupe du Monde, le même niveau que la ligne d'attaque offensive. Et effectivement, ça s'est vu par la suite, ce qui nous a mis en défaut par rapport au collectif espagnol, par exemple, où là, il n'y a absolument aucune faiblesse, ni à droite ni à gauche. Allez, peut-être sur le poste de numéro 9, parce que Oyarzabal, pour moi, ça me paraît léger. Et encore, ouais, c'est vraiment, mais il a quand même marqué. Bah, il y a quelqu'un qui a quand même été dire, on peut pas remporter de Coupe du Monde sans les latéraux. On a une paire, de défenseurs axiales qui est extraordinaire, on a de très bons milieux de terrain,
on voit
une très bonne ligne d'attaque,
mais
pas de latéraux.
Les 10 dernières Coupes du Monde qui ont été remportées que par des Européens, il n'y en a qu'une seule qui a été remportée par l'Argentine en 2022, et on voit que l'Espagne, en tout cas, qui ressortent beaucoup sur l'Euro Coupe du Monde, qui sont à 3 euros et une Coupe du Monde depuis 2010, tout simplement. C'est,
ils refont le doublé de 2010.
Après, c'est mérité.
C'est énorme, et ils seront encore là.
C'est une équipe jeune en plus.
Ouais, ils ont une très belle génération.
Très jeune, donc
en tout cas, il y a Zinedine Zidane qui est annoncé côté français, qui devrait arriver sur le banc. En tout cas, ça sera annoncé, comme l'a dit le président de l'équipe de France, de la fédération de l'équipe de France, Philippe Diallo, qui a annoncé que ça sera annoncé avant la fin du mois.
Ouais, et on se prépare, à mon avis, à des moments. Pas difficile, mais très étrange au niveau média. Parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, je sais pas si ça vous a...
Très rapide, s'il te plaît, parce qu'on va rendre l'antenne. Là.
J'ai déjà vu l'interview d'un chroniqueur de l'équipe TV, par exemple, qui a dit « Je suis un peu emmerdé, finalement, que Zidane arrive, parce que critiquer, c'est remettre en question les choix et tout, et je sais pas si je peux me permettre de remettre en question ce que va faire Zidane, quoi. »
Bah, ça promet d'être
c'est
un peu inquiétant, en tout cas ça promet d'être difficile, mais en tout cas on va essayer d'être le plus neutre possible pour suivre tout ça. Du coup on va remercier Théo, on va remercier Léo à la technique, merci Stéphane, merci Jason, merci à Stéphane Desenclos, merci à Philippe, merci à Andrea.
On a vécu une Coupe du Monde sympa quand même.
Oui, on a vécu une Coupe du Monde sympa, même si on aurait eu une meilleure fin
contexte géopolitique avec,
oui bien sûr. Exactement. Merci en tout cas à Léo, merci à nos chers auditeurs et auditrices, on se dit bonnes vacances à vous. On va pas se revoir avant octobre. Nous allons suivre le mercato, nous allons tout suivre, en tout cas tout ce qui va se passer dans l'actualité du football, nous allons suivre ça de très près et nous allons vous faire un retour très rapide au mois d'octobre. On espère que vous allez passer de bonnes vacances et on se dit à très bientôt, dans quelques mois, après cet été, pour du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à vous.